Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous arrivons à l'article 4 dans la section où nous sommes du catéchisme. Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Et donc le catéchisme ici va nous conduire, pour commencer à développer cela, à ce paragraphe « Jésus et Israël ». C'est au numéro 574. Et quand je lis cela, j'ai un certain nombre de discussions assez récentes que j'ai eues qui me reviennent, dont une, c'était dans un avion qui était quasiment vide, et du coup un steward s'est mis à me parler, à venir me parler, j'étais un peu surpris de la... et il me dit, vous êtes prêtre, est-ce que... Comment se fait-il qu'on continue de dire l'Ancien Testament dans la liturgie, qu'on donne encore de l'importance à ça, alors que nous, chrétiens, pour nous, tout ça, c'est terminé maintenant avec Jésus, c'est quelque chose de nouveau. Et il avait une grosse insistance sur cette idée, il y a ce qui est dépassé, il y a ce qui est nouveau. Alors, c'est pas comme ça qu'on raisonne dans la vie chrétienne, et le Concile Vatican II a tenu à rappeler ce que sont nos racines pour les chrétiens que nous sommes, ce peuple de Dieu, à ses racines dans ce peuple de Dieu qui est fondé dans l'élection d'Abraham aussi. Mais cependant, on se rend bien compte qu'il faut tenir à la fois, il y a quelque chose de radicalement nouveau en Jésus, et pourtant de profondément appuyé, enraciné sur cette alliance que Dieu a faite, qui est avant lui, et ça commence en Israël. C'est toujours très, très délicat de faire ce passage-là, de ne pas être le Dieu d'avant, le Dieu d'après. On a dû déjà parler de ça avec cette vision d'un Dieu méchant de l'Ancien Testament et un Dieu miséricordieux, nouveau, Jésus qui est Dieu lui-même. Là, il y a besoin peut-être de se redire, mais quel est notre rapport à Israël, pour les chrétiens que nous sommes, et comme le catéchisme le dit, Jésus et Israël.
Oui, c'est tout à fait juste que on est en rhétorique facilement attiré à la dialectique. La dialectique qui fait que, pour parler du jour, on aime bien l'opposer à la nuit. Quand on parle de quelque chose qui est lumineux, blanc, on va l'opposer à ce qui est noir. Et la tentation est de simplifier le réel. Le réel est beaucoup plus riche que seulement la nuit et le jour. La preuve, pendant la nuit, il y a les étoiles, il y a la lune, et puis il y a l'aurore, et puis il y a le jour plein, et puis il y a le jour couchant, etc. Donc en fait, la réalité est beaucoup plus riche que la dialectique. Et c'est vrai qu'à l'époque des pères de l'Église, où il fallait marquer la différence par rapport à ce que tu as très bien appelé être l'Ancien Testament, par rapport à ce que nous appelons le Nouveau Testament, il fallait accentuer peut-être la différence. Et c'est vrai que, par exemple, saint Paul a été l'un des moteurs de cette volonté pour l'Église d'accentuer la différence. En particulier, c'est saint Paul qui utilisait le mot « Ancien Testament ». C'est en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, et il dit, jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, donc c'est vraiment scripturaire, ce voile demeure qui empêche de voir, finalement, la lumière plénière de Dieu. Et il prend l'exemple de Moïse qui était obligé de mettre un voile quand il parlait aux Juifs en descendant du mont Sinaï. C'est effectivement tout à fait conforme à ce qu'on lit dans l'Exode, le Deutéronome. Et comprenons bien que quand on dit « Ancien Testament » avec saint Paul, cela ne veut pas dire obsolète. Cela ne veut pas dire que l'Ancien Testament serait à éradiquer. Il est ancien par rapport à la nouvelle greffe qui a lieu, dira saint Paul, sur l'olivier franc qu'est Israël. Donc une nouvelle greffe, elle n'existerait pas si elle n'était pas greffée sur quelque chose qui demeure. Donc vous voyez, ancien ne veut pas dire à gommer, à supprimer, à oublier. Non, mais à découvrir que quelque chose à partir de l'ancien qui, dans cette greffe, permet quelque chose de nouveau. Et nous comprenons bien à ce moment-là que la position des apôtres, la position des premiers disciples, a été surtout une question d'interprétation. Et d'ailleurs, c'est ce que dit 572, l'Église reste fidèle à l'interprétation de toutes les Écritures données par Jésus lui-même, avant comme après sa Pâque. Ne fallait-il pas que le Messie endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et on cite Luc 24, où Jésus, justement, se fait herméneute. C'est là que le mot herméneutique apparaît pour la première fois dans les écrits du Nouveau Testament, d'ailleurs le seul endroit où Jésus interprète tous les écrits de la Première Alliance. L'Épître aux Hébreux n'utilise pas le mot Ancien Testament, il utilise plutôt Première Alliance par rapport à Nouvelle Alliance, pour bien montrer l'essor, la nouveauté. Et ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ne comprennent pas le mot ancien, Première Alliance. Eh bien, Jésus reprend tous les textes de la Première Alliance, le Pentateuch, la loi, les prophètes et les autres écrits. Dans le fond, c'est la Bible juive que Jésus a réinterprétée. Et il l'a réinterprétée non pas en disant qu'il fallait la gommer, qu'il fallait l'abandonner, mais comme étant porteuse déjà de sa propre venue. Porteuse par les prophéties qui étaient dedans, et notamment Deutéronome 18-15, qui a eu tellement d'importance dans les premiers discours de Saint-Pierre au moment de la Pentecôte, pour comprendre qu'un nouveau prophète était arrivé, qu'un nouveau prophète allait donner cette nouvelle alliance, et c'est Jésus qui la donne. Et donc on comprend très bien qu'il serait impossible de lire le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Et le rapport n'est donc pas dialectique, mais le rapport est beaucoup plus de continuité, mais aussi, il faut bien le dire, dans une différence de nouveauté, par une certaine rupture, une rupture qui est plus celle d'un cordon ombilical qu'il faut bien couper un moment, et c'est nécessaire donc de montrer qu'on est vraiment nouveau, hein, comme un petit enfant qui quitte le sein maternel, il faut bien couper le cordon ombilical, mais toute sa chair, toutes ses cellules viennent de sa maman, à travers la fécondation que le père a donnée dans le sein maternel des cellules féminines. Donc il y a bien une continuité qui nécessite une certaine rupture et un dépassement, parce que cette petite greffe apporte quelque chose de tout nouveau. Et c'est là que l'enseignement de Jésus devra être compris, c'est en quoi il apporte quelque chose de tout à fait nouveau. Nouveau Testament, nouvel Israël, nouveau peuple de Dieu, toutes ces expressions nous sont familières et sont reprises par le Concile Vatican II, mais pas, vous voyez, dans un esprit dialectique d'opposition, hein, mais dans un esprit ternaire, continuité, rupture, dépassement. Et c'est dans cet aspect ternaire des choses que l'on peut mieux comprendre la place de Jésus sans gommer aucun. Le grand danger, si vous voulez, c'est lorsque soit on supprime la continuité et à ce moment-là, on est dans cette tentation du martionnisme qui a été très frappant dans les premiers siècles du christianisme, où tout un courant avait voulu carrément gommer l'Ancien Testament. Et ça, l'Église a dit toujours « niet », on est dans la continuité. Mais après, évidemment, si je nie la rupture, je risque de tomber dans le syncrétisme. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare de voir des courants ecclésiaux fréquents qui, au cours des siècles, renaissent, ont un peu tendance à judaïser. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a quand même eu rupture, il y a quand même eu quelque chose, parce que la sève nouvelle qui est apportée est vraiment toute nouvelle et nécessite de s'arracher quelque part et de rentrer dans un véritable dépassement. Si je refuse cet autre aspect, alors je tombe dans une espèce de syncrétisme. Et dans des périodes où les choses vont vite vers la politique, on comprend très bien que la tentation est grande de gommer les différences, sous prétexte de respect de l'autre, on ne veut plus dire où sont les différences, et à ce moment-là, on gomme la spécificité chrétienne, et on n'apparaît plus que comme une sorte de secte du judaïsme. Mais on n'est plus du tout à ce moment-là dans la vérité de ce que Jésus est venu annoncer comme une nouvelle alliance que nous revendiquons vraiment vivre dans l'essentiel de l'Évangile, avec tout ce qui est dit dedans, qui fait qu'il y a un véritable contraste avec l'enseignement rabbinique. Et si je n'accepte pas ces différentes dimensions, je risque donc très bien, hélas, d'édulcorer le message de Jésus-Christ.
Derrière ce que tu dis, au-delà de la question propre à Israël, christianisme et Israël, Jésus et Israël, j'entends une question de méthode aussi, de dire qu'il faut faire attention à des analyses qui sont trop dialectiques. Et ce rapport de continuité, d'ailleurs, ça me fait penser dans l'Église elle-même, dans l'histoire même de l'Église, où récemment, avec le Concile Vatican II, certains l'avaient tellement pris comme ce qu'on appelait un concile de rupture. Le pape Benoît XVI a pris soin de dire, attention, il y a besoin d'une herméneutique, une interprétation dans l'ordre de la continuité, pas simplement de la rupture. C'est vrai dans toute la vie de l'Église, finalement.
C'est vrai dans toute la vie de l'Église et dans toutes les réformes que l'on voit. La réforme des cisterciens par rapport aux bénédictins, ou tant d'autres, les capucins par rapport aux franciscains, et tant d'autres formes de réforme.
Merci, frère Édouard.
À bientôt.